Bonjour. Bonjour. C'est contre-histoire aujourd'hui. Et puis cramponnez-vous. Prenez bien votre calculette et tout, parce que c'est du hard. On va s'attaquer à la question du chômage. Et on va se demander comment font nos dirigeants pour être aussi successful dans l'entretien du chômage.
Dans les années 50-60, au centre de la France, en pays communiste, dès qu'une nouvelle machine faisait son apparition dans les champs ou dans une entreprise, les ouvriers maugréaient. Encore une nouveauté qui va nous mettre au chômage. Et ils avaient raison, ces travailleurs rouges. Les campagnes n'étaient pas encore désertées, mais elles allaient y passer. Une machine agricole peut faire le travail de 5 ou même 10 ouvriers. Ligote pour des années les paysans au diktat du Crédit Agricole, jusqu'à ce que, étranglés, ils vendent leur exploitation et s'en aillent chômer en ville. C'est comme ça que ça commençait. J'y étais. Ça, c'était à la campagne. Et en ville, bientôt, ça allait être pareil. Les petites usines de là-bas se sont fait dévorer par les grands groupes industriels qui pouvaient s'équiper d'investissements ultramodernes et supprimer de plus en plus de main-d'œuvre. Ainsi, l'usine du pain d'épices, qui s'est d'abord fait racheter par Gringoire, puis par Vandamme, a finalement fermé. Le caoutchouc, lui aussi, qui empestait les cours de récréation voisines, et le fil de fer, où travaillait Roja, cette immigrée féministe survivante de la crise de 1929 et de la guerre, qui avait décidé que ses enfants seraient fonctionnaires. Et la crise de 1929 recommence.
Est-ce qu'on peut refuser le progrès, comme semblaient le faire les ouvriers des années 50 sans formation? Bien sûr que non. Qui renoncerait à l'ordinateur, au téléphone, aux moyens de transport modernes, à tout ce qui nous a fait sortir de Germinal, même si Germinal existe toujours au Gabon, au Niger ou au Pérou, comme nous l'a rappelé Madame Coste il y a 15 jours. Mais les enfants de Rusa, tranquilles fonctionnaires, ne peuvent pas regarder leurs copains s'enfoncer dans la précarité, le chômage et la décrépitude. Dans les années 70, on s'affolait d'un million de chômeurs. On dépasse aujourd'hui les 6 millions. Et le seul remède du gouvernement socialiste est de faire la chasse aux fraudeurs d'indemnités plutôt que de leur donner du travail.
La coupe est pleine, monsieur le président. Elle déborde même de larmes de rage. Et la colère, dit-on, est mauvaise conseillère. Il est plus que temps de chercher, avec l'intelligence de l'humilité, les solutions mises en œuvre ici ou là, proposées hier et aujourd'hui par des esprits progressistes, chercheurs solitaires ou organismes spécialisés. Voici quelques-unes de leurs réflexions. Henry Ford, qui n'est pas entré dans l'histoire en tant que dangereux anarchiste, avait bien compris le fonctionnement du capitalisme, qui a besoin d'entreprises qui produisent, mais surtout de consommateurs qui achètent. Interview publiée dans la revue Words Work en octobre 1926. Le constructeur raconte pourquoi il a réduit la semaine de travail dans ses usines du monde entier à 40 heures sans diminution de salaire en 1926. En 1914, il annonçait déjà que désormais le salaire minimum dans ses industries serait de 5 dollars pour une journée de 8 heures, le fameux 5 dollars a day, 5 dollars par jour. À cette époque, un bon salaire était de 2,5 dollars pour une journée de 10 heures. Et en 1926, il fit cette autre annonce. Nous avons décidé et mis en vigueur dans toutes les branches de nos industries la semaine de 5 jours. Le samedi et le dimanche seront des jours libres, mais les travailleurs, selon leur mérite, recevront la même rémunération que pour une semaine complète de 6 jours par semaine. Une journée continuera d'être de 8 heures, sans heures supplémentaires.
Maintenant, ne nous faites pas dire ce que nous n'avons pas dit. Nous savons bien qu'Henry Ford n'était ni un bienfaiteur de l'humanité, ni un enfant de cœur, qu'il faisait travailler les ouvriers sous la férule des milices armées, et que ses écrits ont, paraît-il, beaucoup inspiré Hitler. Nous ne parlons ici et aujourd'hui que d'économie.
Que d'économie.
En 1930, Keynes prévoyait une semaine de 15 heures pour l'année 2030, avec des revenus croissants et une consommation élevée. Ensuite, Einstein, en 1949, dans son livre « Comment je vois le monde », nous dit « Comme le travail nécessaire aux besoins de tous diminue grâce au perfectionnement de la technologie, seule une fraction de la main-d'œuvre disponible devient indispensable. Or, dans ce type d'économie libérale, cette évidence détermine forcément un chômage.
Le libre jeu des forces économiques ne peut à lui seul maintenir un équilibre permettant le plein emploi. Une réglementation planifiée et réaliste s'impose pour utiliser les progrès de la technologie dans l'intérêt commun. Ce même progrès technique qui pourrait libérer les hommes d'une grande partie du travail nécessaire à leur vie, est le responsable de la catastrophe actuelle. Disait donc Einstein en 1949. Alors aujourd'hui, il ne tirerait plus la langue, il s'arracherait les cheveux. L'économie libre doit s'imposer des limites sur deux points.
Le travail hebdomadaire dans les unités de production sera réduit par des dispositions légales pour systématiquement enrayer le chômage.
Et la fixation des salaires minima sera établie pour faire correspondre le pouvoir d'achat du salarié avec la production.
En 1993, Antoine Riboud, président de BSN Gervais Danone, avait déclaré « Il faut passer à 4 jours, 32 heures, sans étape intermédiaire. C'est le seul moyen d'obliger les entreprises à créer des emplois. Et il avait raison, l'Antoine. On l'avait traité de patron de gauche. Il était certainement bien plus à gauche que tout notre gouvernement actuel. Et il savait bien qu'il fallait obliger les patrons à embaucher pour une contraction brusque de la semaine de travail. Impossible en effet de monter les cadences pour obtenir le même résultat en 32 heures qu'en 40. Tandis qu'en passant à 39 heures, on a seulement accentué le rythme de travail facilement en supprimant des pauses et en accélérant les chaînes. Et quand on est passé à 35 heures, on a fermé plus tôt, panique dans tous les services publics, terreur à l'hôpital, suicide en série parmi les cadres des grandes entreprises, car on n'a pas embauché les patrons ayant reproduit le système qui avait fait ses preuves en 1982.
Et le chômage est passé de 1 à 6 millions de victimes, à multiplier par 2 ou 3, en comptant les familles. Et là encore, on optimise, car nous sommes de plus les champions de la reproduction. En 1995, un rapport au plan de la commission Boissonnat considérait que la France devait encore réduire son temps de travail de 20 à 25% en 20 ans. Depuis 20 ans sont passés, et la durée annuelle moyenne n'a même pas baissé de 10%. En 2013, l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel, dit ONUDI, peu suspecte d'utopisme scabreux, recommande quant à elle d'abandonner l'obsession de la productivité du travail pour développer la gestion intelligente des ressources naturelles adaptées à la crise du XXIe siècle. Et ses spécialistes déclarent « Confrontée à la persistance d'une croissance faible dans le futur, la volonté d'augmenter la productivité du travail va accroître le chômage. » Les progrès technologiques ont fortement réduit les besoins de main-d'œuvre. Le XXe siècle a vu la durée du travail baisser de près de 50%. L'allongement du temps de travail n'abaisse pas du tout le chômage. Au contraire, le Centre de statistiques Eurostat note en 2011, au Danemark, pour 33 heures 80, ça fait 33 heures 3 quarts, hein, un peu plus, par semaine, il y avait 7% 60 de chômeurs. Et aux Pays-Bas, pour 30 heures et demie hebdomadaires, il y avait 4% 4 de chômeurs. Pendant ce temps-là, en Italie et en Espagne, qui ont adopté des mesures de flexibilité, on a vu le taux de chômage monter en flèche.
La lutte la plus efficace est bien la baisse du temps de travail sans diminution de salaire, que l'Allemagne a très bien réglé. La réduction du temps de travail résoudra les problèmes de santé, stress, accident, de dégradation de l'environnement, transport, d'inégalité de travail domestique, du temps libre, la vie de famille améliorée, l'éducation, la culture, etc. Et l'ONU dit de conclure... Nous devons trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. La New Economic Foundation prône 21 heures de travail hebdomadaire pour y arriver. Et bien sûr, recours au temps partiel choisi, aux périodes sabbatiques, aux accords d'entreprise et fin de la défiscalisation des heures supplémentaires.
Voyons maintenant le cas de la redoutable aventurière Angela Merkel. Avec sa Kurzarbeit, ou travail réduit, explication fondamentale de la réussite allemande en matière d'emploi. En Allemagne donc, politiques et partenaires sociaux ont décidé que les licenciements seraient l'exception. De nombreux assouplissements et extensions du dispositif de chômage partiel conjoncturel sont apportés en 2009. Et voilà la flexibilité à l'allemande. Le chômage partiel est indemnisé par l'État. Voilà comment. Il suffit qu'un employé ait son activité réduite de 10% pour bénéficier de l'indemnisation de ce chômage partiel. Et ce, pour 24 mois. Cette mesure concerne l'entreprise et pas seulement le salarié. L'entreprise a donc 24 mois devant elle pour normaliser l'emploi chez elle. Une nouvelle période ne peut s'ouvrir qu'après au moins 3 mois sans chômage partiel dans l'ensemble de l'entreprise.
ce qui montre bien que l'entreprise, elle a intérêt à faire le ménage, hein, à s'organiser pour que ça marche et qu'elle sorte de cette situation qui ne doit être finalement que exceptionnelle.
Pour l'indemnisation du salaire, mais et les cotisations sociales ?
Ah bah oui, hein. En Allemagne, il y a aussi la sécurité sociale. Alors, les cotisations du salarié sur les heures chômées sont entièrement prises en charge par l'Agence fédérale pour l'emploi. Si le salarié est en formation, le total des cotisations sociales est pris en charge. Après 6 mois, l'intégralité des cotisations sociales est prise en charge, même si le salarié n'est pas en formation. L'Agence fédérale de l'emploi subventionne nombre de formations pour les salariés en chômage partiel. Prise en charge intégrale des coûts de formation, y compris transport et garde d'enfants, en vue d'un diplôme professionnel pour les salariés peu qualifiés. Et aussi prise en charge de 25 à 80% des coûts de formation selon le type de formation quand il s'agit de salariés qualifiés. Dans ces conditions, bien sûr, les entreprises ont eu massivement recours au Kurzarbeit. À son maximum, 1 530 000 personnes ont été concernées, avec une réduction moyenne de leur temps de travail de 31%. Les subventions de salaire versée par l'Agence fédérale pour l'emploi, représentait 60% de la perte salariale nette qu'aurait subi l'employé, et 67% s'il a au moins un enfant. Alors ça fait beaucoup de chiffres et de pourcentages, on va essayer d'être un peu plus clair. Voilà. Donc, sur un salaire plein de, par exemple, 2000 euros, frappé par un chômage partiel de 31%, le salarié touchait 69% de son employeur, c'est-à-dire 1380 euros. Déjà, il va pas mourir de faim. Et par l'agence fédérale, 372 euros minimum, hein, selon la constitution de la famille. Bon. C'est-à-dire 1752 euros minimum. Eh ben, ça fait de quoi vivre en ayant un temps libre plus confortable. Bon, vous pouvez poser vos calculettes et puis on revient un peu au jazz. Ça peut pas faire de mal.
Son rapport 2010-2011, le BIT, Bureau international du travail, comme chacun sait, estime que compte tenu des frais correspondants, les entreprises auraient dépensé 22 milliards d'euros au total pour 500 000 travailleurs licenciés durant la crise. En revanche, le chômage partiel leur a coûté 5 milliards d'euros, tandis que l'Agence fédérale pour l'emploi a versé 6 milliards d'euros. On voit donc que même sur le plan financier, la solution Kurzarbeit était largement préférable, avec ses dépenses réduites de moitié. Pendant ce temps, en France, le recours au chômage partiel restait marginal, avec des conséquences calamiteuses sur l'emploi. Nicolas Sarkozy, avocat mais mauvais en arithmétique de base, restant convaincu que payer des heures supplémentaires à ceux qui travaillaient déjà à plein temps, plutôt que fournir un travail, même partiel, à ceux qui étaient au chômage, allait améliorer la situation.
Comme d'hab, ça améliorait la situation de ceux qui avaient déjà du travail, et surtout des patrons qui n'étaient pas imposés sur ces heures sup. La France est ainsi le deuxième pays qui a le moins recouru au temps partiel pendant la crise, avec seulement 0,8% de la population active concernée au deuxième trimestre 2009,
contre 3,2% en Allemagne, 3,3% en Italie et 5,6% en Belgique.
Chez nous, dans son rapport de 2011, la Cour des comptes dénonce chômage partiel, un outil insuffisamment utilisé. La France a mis 100 fois moins de moyens que l'Allemagne en 2009 dans le chômage partiel, 61 millions d'euros contre 6 milliards. À son maximum, le dispositif n'a concerné en France que 275 000 personnes, soit 1,2 million de moins qu'en Allemagne. La différence de résultats est encore plus forte selon une étude de l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique, citée par la Cour des comptes. Le Kurzarbeit aurait permis de sauver 14 fois plus d'emplois qu'en France pour un coût par emploi sauvé de 20% moins cher.
Mais en France, gouvernement de gauche et patronat prêchent la flexibilité, contraire. Comme le déplorent ceux qu'on appelle les économistes atterrés, et qui s'appellent eux-mêmes les économistes atterrés, ce 3 avril 2015. On prétexte le taux de chômage record, près de 3,5 millions de chômeurs, plus 2,4 millions d'autres demandeurs d'emploi, pour faire passer des réformes rétrogrades. Le président du MEDEF impute le chômage à un marché du travail trop rigide et propose encore de flexibiliser le contrat de travail. Les candidats à l'embauche devraient renoncer à contester un licenciement futur, devraient accepter une fin de contrat automatique à l'issue d'un chantier ou quand les carnets de commandes de l'entreprise se vident. Ce qui revient à dénoncer la convention de l'Organisation internationale du travail qui interdit tout licenciement sans motif valable et précis. Les salariés qui s'investissent dans leur emploi ont besoin d'être informés des motifs de cet acte grave qu'est leur licenciement et sont légitimes à le contester en justice. Les pays qui ont le plus fortement réduit la protection des licenciements, comme l'Espagne ou l'Italie, ont vu leur taux de chômage battre des records. Quelques laudateurs du capitalisme effréné, dont Jean Tirole, titulaire toulousain du prix de la Banque de Suède, prix Nobel d'économie pour son étude du marché capitaliste, mais pas du chômage. Jean Tirole, donc, et ses petits camarades, proposent ce qu'ils appellent abusivement un Jobs Act à la française. Thank you.
c'est que ça, le Jobs Act?
Alors, le Jobs Act, c'est un cadeau d'Obama aux petites entreprises américaines ou à ceux qui veulent en monter. Alors, c'est un acronyme, ça s'appelle Jumpstart Our Business Startup Act. Voilà. Alors, comme ça, Obama donc facilite la naissance et le financement des petites entreprises par le recours aux participations citoyennes. Alors, ici, mais peut-être mondialement d'ailleurs, KissKissBank, je ne sais pas si c'est mondial ou pas. Alors, il y a KissKissBank, il y en a d'autres, hein, sur Toulouse, il y en a quelques-unes. Bon, ce sont des banques civiles un peu.
Comme des collectes.
Des collectes, voilà. Ce sont des centres de collecte de fonds, des centres qui collectent les fonds apportés par des individus, par des citoyens, qui sont motivés par le projet de quelqu'un. Voilà.
D'une entreprise.
Bon, ça se fait beaucoup dans le domaine artistique, mais ça peut se faire. On va recevoir dans quelques semaines quelqu'un qui est en train de lancer qui va lancer une épicerie sociale et solidaire. Et je pense qu'il va fonctionner comme ça. J'en suis pas tout à fait sûre, hein. Alors donc, n'anticipons pas. Mais c'est un cas où on pourrait très bien avoir un financement du type KissKissBank. Voilà. Donc, ça, c'est le Jobs Act à l'américaine. Mais l'idée principale de Tirole est d'effacer du Code du travail la cause sérieuse des licenciements économiques, ce qui est quand même tout à fait autre chose, hein. Alors, il efface la cause sérieuse des licenciements économiques qui est donc prévue par le Code du travail pour limiter les dégâts, pour empêcher les patrons de faire n'importe quoi, de se débarrasser d'un salarié parce que sa tête ne lui plaît pas, ou autre chose, hein. Il faut un motif sérieux, voilà. Alors, Jean Tirole veut effacer du Code du travail le motif sérieux et il va limiter le rôle des juges, lesquels ne pourront plus, alors, qu'apprécier la réalité de la restructuration. Parce que, quand on restructure, le gros prétexte, c'est la restructuration économique. Quand on restructure une entreprise. Bon. Seulement, les juges ne pourront plus, à ce moment-là, que apprécier la réalité de la restructuration, c'est-à-dire monsieur le PDG veut un bureau plus grand, et ben il vire les employés qui sont dans les bureaux adjacents, il abat la cloison et ça fait une restructuration. Mais il n'est pas dit que c'est une nécessité économique.
Non.
Hein? Bon, enfin j'exagère un petit peu là. Un tout petit peu, mais bon, c'est juste pour montrer ce que c'est qu'une restructuration et ce que c'est qu'une nécessité économique. C'est pas du tout la même chose, voilà. Alors, lesquels ne pourront plus apprécier la réalité de la restructuration sans se prononcer sur sa justification socio-économique. Et les entreprises, alors, qui seront libres de ne plus justifier la nécessité des licenciements, elles n'auraient pas davantage à reclasser leurs salariés, ce qui fait qu'ils seraient complètement sur le carreau, abandonnés alors à Pôle emploi.
Et si Pôle emploi était à la hauteur, ça se saurait. Et ces soi-disant spécialistes défendent l'idée d'un contrat unique, plus flexible que le CDI de 87% des salariés. Manuel Valls propose un contrat de travail spécial PME pour faciliter les licenciements, comme le CNE de Nouvelle Embauche de 2005, qui fut abrogé car contraire au droit international. « Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais », disent des gosses mal élevés. Comment la France pourrait-elle piétiner l'une des conventions de l'Organisation internationale du travail quand elle réclame l'application de ces conventions aux pays émergents? Comment un contrat pourrait-il par avance exclure l'intervention d'un juge pour en vérifier l'application? Clause illégale par définition.
Non, la France ne peut pas avoir pour projet le développement d'un modèle qui reposerait sur des travailleurs jetables et sous-payés, comme le propose le MEDEF, le Premier ministre et des économistes qui rêvent de revenir au XIXe siècle. La flexibilité démobilise les salariés, les détache de leur travail, en les plongeant dans un aquabonisme découragé, désespérant. Les entreprises ont besoin de s'appuyer sur des salariés impliqués, dont elles peuvent maintenir et améliorer les capacités de travail. Gage de productivité, de qualité des produits et de compétitivité. À l'évidence, ces assouplissements du droit du travail favorisent les destructions d'emplois. Mais par quel tour de passe-passe pourrait-il en créer ?
Messieurs Gattaz, Valls et autres Tyrols, ce ne sont pas les employeurs qui ont peur des licenciements, ce sont les salariés.
Le salariat implique une subordination qui justifie la protection des salariés, surtout dans la crise qui les fragilise davantage. Or, les procédures de licenciement n'ont pas cessé d'être facilitées. La loi de 2008 crée la rupture conventionnelle qui permet à l'employeur et aux salariés de négocier la fin d'un CDI avec versement d'indemnités légales aux salariés. En 2012, ces ruptures conventionnelles représentaient 16% des fins de CDI en dehors des périodes d'essai et de départ à la retraite. Aujourd'hui, les CDD représentent 86% des embauches. Et les CDI sont loin d'être rigides, puisque plus d'un tiers sont rompus avant la fin de leur première année d'existence.
Thank you.
La mal nommée loi de sécurisation de l'emploi de 2013 a modifié les règles du licenciement collectif pour motif économique, en raccourcissant les délais de contrôle et les délais d'élaboration de plans de sauvegarde. Ce qui fait que les salariés, ils paniquent beaucoup plus. Les accords dits de maintien de l'emploi permettent aux employeurs de demander aux salariés des baisses de salaire et des hausses de la durée du travail contre la promesse de maintien de l'emploi. La loi Macron remet en cause les prud'hommes en privilégiant les médiations, comme si la relation salariale était une relation entre égaux. Elle introduit également, selon le souhait du MEDEF, un barème indicatif d'indemnisation, ce qui va limiter les discussions, évidemment.
Créer des emplois relève d'une politique de relance tournée vers des activités utiles et écologiques, avec une meilleure répartition des richesses, une fiscalité plus juste et une réduction du temps de travail.
Et pourtant, depuis près de 20 ans, chaque année, plus de 20 milliards d'euros sont dépensés en allègements de cotisations sociales employeurs sur les bas salaires, sans résultat sur l'emploi. Nous, économistes atterrés, réfutons l'idée qu'un modèle de société reposant sur des travailleurs jetables, sous-payés, exposés à la place des actionnaires à l'ensemble des risques économiques, puisse offrir une quelconque solution au chômage. Lequel chômage n'a jamais autant augmenté que depuis les années 80, quand l'emploi est devenu plus flexible. C'était les réflexions des économistes atterrés, datées d'avril 2015.
Dominique Méda énarque et sociologue du travail, a rappelé sur France Culture 10 raisons et avis incontestés de réduire le temps de travail.
Première raison, Galbraith, qui fut proche de Roosevelt et conseiller économique de Kennedy, clamait la nécessité de réduire le temps de travail. La production ainsi organisée est sociale, assurant emploi maximum, accès des femmes au travail, vie sociale, culturelle et politique.
Deuxièmement, la croissance s'est terminée. La baisse de la croissance est à la fois régulière et vertigineuse depuis les années 60, malgré une productivité record. Mais cette croissance est-elle vraiment souhaitable? La courbe des gaz à effet de serre décolle au moindre frémissement de croissance.
Troisièmement, en 1970, Edmond Maire, secrétaire général de la CFDT, refusait la croissance en s'attirant les foudres de la CGT et du PC qui misaient sur le couple croissance-emploi. Mais dans cette économie en mutation, la croissance vient de l'investissement et ne génère pas d'emploi, mais au contraire en supprime.
Quatrièmement, l'entêtement dans la croissance détruit la planète. Mais la croissance zéro ne résout rien. Il ne s'agit pas de stopper les activités contemporaines, mais de décroître les activités des secteurs polluants et d'activer les secteurs écologiques, agrobiologie, construction maison passive et isolation de l'existant, abandon du nucléaire, investissement dans les énergies renouvelables.
Cinquièmement, l'obsession de la compète nourrit le chômage en multipliant les délocalisations vers des pays pollueurs.
Le changement total est urgent. En 2008, on a vu des associations gouvernement, écologistes et syndicats en Europe et en Allemagne une planification écologique avec un rôle majeur de l'État qui organise la transition énergétique.
Oui, ces associations de gouvernement, écolos et syndicats, c'était dans le nord de l'Europe, hein, évidemment, faut pas rêver. Il reste à peine 20 ans pour changer tout. Dans le Nord-Pas-de-Calais, par exemple, on conditionne les aides de l'État au respect d'une production écologique. Oui, oui, car l'Europe doit être leader dans la démarche sociale écologique. Il y a nécessité absolue à créer des emplois solides, écolo-normé, au contraire de l'Allemagne, qui, malgré toutes ses qualités, fonce sur le gaz de schiste et retourne au charbon, c'est le cas de dire. Il faut innover d'autres modes de production et remettre en question la consommation. Ça, c'est...
l'essentiel.
C'est essentiel, absolument essentiel. Et je ne sais pas ce qu'il faudra pour que les gens le comprennent vraiment.
La Suède relance le débat sur la journée de travail de 6 heures.
Et avec le magazine économique Challenge, avec Le Monde, l'Observateur et quelques autres, le très conservateur Figaro annonce dans son entreprise Telmex, Carlos Slim, milliardaire mexicain, prône la semaine de 4 jours et même de 3 jours. En France, d'ailleurs, plusieurs centaines d'entreprises, dont Fleury Michon, Maminova, etc., pratiquent déjà, avec succès, cette semaine de 4 jours.
Sans oublier que chez nous, depuis plusieurs années, Stéphane Hessel, Michel Rocard, Edgar Morin, Suzanne Georges et, juste avant-hier, 22 juin, Christiane Taubira, ont clamé l'évidence et l'urgence de cette modernisation de notre organisation de travail, alors que les dernières statistiques annoncées sont encore plus pessimistes que les précédentes. En attendant la catastrophe annuelle de l'arrivée sur le marché des promotions d'élèves et d'étudiants 2015.
Tout ça risque de mal finir. Le problème, c'est que maintenant, de 35 à 32 heures, ça changera encore rien au chômage, puisque le patronat que notre gouvernement bombarde de cadeaux devant des promesses de création d'emplois jamais tenues, le patronat va continuer sans doute d'appliquer la recette d'augmentation du rythme de travail
qui lui permet d'engranger des bénéfices records. Les solutions existent pourtant. Nous venons d'en énumérer qui reviennent toutes à la réduction organisée du temps de travail, avec prise en charge du chômage partiel par l'État et obligation aux entreprises à sauvegarder les emplois et à en créer de nouveaux pour maintenir la production à un rythme réaménagé convenable permettant aux travailleurs de réussir vie personnelle et vie professionnelle.
Alors, qu'est-ce qu'on fait ?
On va pas bosser.
Eh ben, il nous reste l'espoir, voilà.
Espérons qu'on baisse le temps de travail.
Qu'on arrête la bêtise, l'hypocrisie, l'exploitation et l'inconscience.
Et la production de masse qui nous sert à rien à part à remplir des déchetteries.
Absolument, oui. Oui, non, mais c'est la question de la consommation, de la production et de la consommation de masse, ça c'est le propre du capitalisme. Et voilà, on est au bord du gouffre. Alors, ça serait peut-être temps de faire un pas en arrière et pas en avant, comme nous poussait à faire Sarkozy et comme nous pousse à faire Valls et compagnie et Macron et bon, vous avez bien compris, quoi. Voilà.
Il faut essayer de travailler moins pour avoir plus de temps et en profiter de façon agréable.
De façon agréable, voilà. Faites vos robes, faites l'amour, faites du cinéma, faites de la poésie.
Et faites surtout pas les magasins.
Voilà, bravo Manuela. Alors, à bientôt. La semaine prochaine, ça va être tout aussi rigolo.
Youhou.
Voilà. À bientôt.